Ça a été dit ce matin, c'est une lumière, Seigneur, sur notre sentier, celle qui nous éclaire. Et on en a besoin, Seigneur. J'en ai besoin personnellement, Seigneur. J'ai besoin qu'elle me transforme dans les profondeurs de mon cœur et de mon âme, Seigneur. Et Saint-Esprit, je te demande que, grâce à ta parole, Seigneur, tu me corriges ce matin et tu m'amènes sur la voie que Jésus a suivie, Seigneur. Que tu me rendes semblable, Seigneur, à Christ. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Pardon si trop de fois, Seigneur, je suis à côté. Mais toi, Seigneur, tu as voulu que je sois en Christ pour que je sois semblable à ton Fils. Et Seigneur, je demande ton aide ce matin. Bénis chacun de nous, Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais commencer par lire un témoignage, si vous êtes d'accord. Je vais prendre quelques minutes, mais je trouve que voilà, c'est un beau témoignage qu'on a vu sur Internet il y a quelques mois, mais j'avais envie de le citer par rapport à cette thématique-là. Et on peut mettre la deuxième slide. C'est le témoignage de Irena Sendler ou Sendlerova. Et c'est une personne qui est née à Varsovie en 1910, en Pologne, qui était un pays qui compte à ce moment-là la communauté juive la plus importante d'Europe. Eh bien, l'antisémitisme était très virulent. Étudiante, Irena participe à de nombreuses manifestations contre la discrimination à l'encontre des étudiants juifs. Ainsi, elle s'oppose au système qui oblige les étudiants juifs à s'asseoir sur des bancs qui leur sont assignés. Cela lui vaut d'être suspendue de l'université pendant 3 ans. Quand les troupes allemandes occupent Varsovie, Irena, employée à la mairie, alors, dans la section d'aide à l'enfance, rejoint un groupe clandestin qui vient en aide aux enfants abandonnés, très nombreux à Varsovie. En novembre 40, les nazis rassemblent la population juive dans ce qu'ils appellent le ghetto, où les conditions de vie deviennent épouvantables. Surpopulation, sous-alimentation et mortalité très élevées. En 42, commencent alors les déportations massives vers le camp d'extermination de Treblinka. Irena obtient l'autorisation d'entrer et de sortir du ghetto où les enfants connaissent un sort tragique. Sous le pseudo de Yolanta, elle s'emploie à faire sortir clandestinement des enfants du ghetto. D'abord par une brèche aménagée dans un mur, puis en les cachant dans des camions de pompiers ou dans des bennes à ordures. Il fallait séparer les enfants des parents pour les sauver, pour les soustraire aux rafles. Irena s'acharna à prendre et à isoler les enfants juifs de leur famille d'origine pour les sauver. Elle avait grand mal à convaincre les parents ou les grands-parents de les laisser partir. La séparation d'un enfant étant l'une des pires choses qui peut survenir à un parent. Irena, jeune mère, le savait bien, et c'était pour elle une tâche horrible. Et elle a donné ce témoignage en disant « Dans mes rêves, j'entends encore les cris des enfants quand ils quittèrent leurs parents. » Excusez-moi pour l'émotion. Bon, je m'excuse pas, c'est normal. Après leur avoir fourni de faux certificats de naissance avec des prénoms chrétiens, parce qu'il fallait changer le prénom malheureusement des enfants juifs, elle organise le départ de ses enfants vers des institutions ou des familles qui ont le courage de les accueillir. Irena use de stratagèmes de plus en plus audacieux. Plus jeune, elle avait reçu une formation en plomberie et en serrurerie. Sous prétexte de travaux à effectuer, accompagnée de son chien, elle pénètre en voiture dans le ghetto, munie d'une caisse à outils et de sacs de gravats ou de sacs de pommes de terre. Quand elle ressort du ghetto, la caisse à outils renferme un bébé et dans un sac est caché un enfant plus grand. Son chien, qu'elle a dressé à aboyer si quelqu'un approche du véhicule, dissuade les soldats allemands de procéder à une fouille et couvre aussi les éventuels pleurs des bébés. Mais le 23 novembre, 43, Irena est arrêtée par la Gestapo. Soumise à la torture, ses bourreaux lui brisent les bras et les jambes, sans qu'elle livre un seul nom. Elle est condamnée à mort, mais heureusement, la résistance polonaise réussit à la faire s'évader. Quand la guerre prend fin, Irena déterre une jarre qu'elle avait enfouie dans son jardin et en extrait les papiers sur lesquels elle avait inscrit, un à un, et au fur et à mesure, les noms des 2500 enfants qu'elle avait fait sortir du ghetto, dont beaucoup seront retrouvés par le comité juif de Pologne. Elle vient alors en aide aux orphelins et crée des maisons dites de retraite. Elle ne parle à personne de ce qu'elle a fait. Pourquoi ? Parce qu'elle estimait normal d'avoir agi ainsi, regrettant même d'avoir fait trop peu. Ce n'est qu'en 2003, à 77 ans, que Irina a été élevée au rang d'héroïne nationale et elle est décédée le 12 mai 2008 à l'âge vénérable de 98 ans, après avoir appelé, je la cite, « tous les êtres de bonne volonté à l'amour, la tolérance et la paix, pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. » L'année dernière, c'était, il y avait une célébration en son honneur, en 2018. Dans notre société, toujours plus tournée vers soi, vers notre propre bien-être ou notre accomplissement personnel, je trouve que cette thématique de se sacrifier pour l'autre, donner sa vie pour celui ou celle qui est à côté de moi, a beaucoup de mal à résonner, à avoir un écho. Parfois, même chez les chrétiens, on peut retrouver cette quête à tout prix de l'accomplissement personnel qui va surpasser le don de soi et le service pour l'autre. Mon confort ou mon ministère peut devenir si important que j'oublie celui que Dieu a placé juste à côté de moi. J'oublie de servir la communauté où Dieu m'a placé et de me donner à elle. Ce matin, je vais peut-être paraître un peu vieux jeu, mais je voudrais redonner une valeur essentielle, vraiment essentielle, au don de soi, au fait excellent de se sacrifier pour l'autre, pour celui qui est à côté de moi. Irena, elle appelle tous les êtres de bonne volonté à l'amour, pas seulement en temps de paix, mais aussi, pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et j'ai envie de nous rappeler ce matin qu'on a un autre appel aussi, celui de Dieu. Et Dieu, lui, appelle ses enfants à donner leur vie, les uns pour les autres, à s'aimer tellement que chacun cherche, non pas son propre bonheur, mais le bonheur de l'autre avant le sien. Imaginez un instant l'impact dans un mariage, dans une famille, dans notre famille qui est l'Église. Quel impact si nous nous aimions tellement que le bonheur de mon frère, de ma sœur, dépassait le mien, passait avant le mien. On peut mettre un Jean 3. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc on est toujours sur la thématique du « les uns les autres ». Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est extraordinaire. J'avais fait un message en septembre, pour ceux qui s'en rappellent, sur ça, sur l'amour de Jésus qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de nous, qui se manifeste aussi de manière concrète dans notre vie. Et l'expression la plus forte de cet amour, c'était quoi ? C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde sur la deuxième partie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est fort ? C'est fort, mais la Bible est forte. Ce n'est pas un livre qui va nous caresser. Alors oui, c'est un livre qui va nous consoler. C'est un livre qui va nous guérir. C'est un livre qui va nous encourager. Mais pas forcément en nous caressant. Alors que le monde nous pousse à rechercher richesse, gloire, confort et bien-être, la Bible, me semble-t-il, nous pousse dans une autre direction. Ah. Ça fonctionne ? Oui, mais je préfère laisser gérer. Je ne sais pas quoi faire de mes mains, en fait. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous n'avons point cherché, c'est Paul qui parle, la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Waouh ! Waouh ! Quelle expression de l'amour ! Et en fait, c'est trois personnes qui écrivent là, de ces trois chrétiens, envers la communauté, les communautés qu'ils ont implantées. Moi, ça me scotche. Waouh ! Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Il s'agit de Paul, Sylvain et Timothée qui parlent. Dans le témoignage que j'ai lu, il y avait d'un côté ces mamans qui ont tout fait pour que leurs enfants soient sauvés, quitte à les confier à un inconnu. Quel déchirement ! Mais à quoi elles ont pensé ? À une chose, pourvu qu'ils soient sauvés, qu'ils soient sains et saufs. Cette Yolanta a pris soin de ses enfants jusque très longtemps après les avoir sauvés. Elle a risqué sa vie et les nazis lui ont même brisé les bras et les jambes. Mais ça ne l'a pas arrêtée. Son amour de l'autre était si fort que malgré la souffrance endurée, elle a continué de bénir ses enfants en créant des orphelinats, en essayant de retrouver les familles qui étaient séparées pendant la guerre. Rien ne l'a arrêté. Paul, Sylvain et Timothée ont eux aussi su laisser grandir en eux les mêmes sentiments que ces mamans. Ces mamans qui font tout pour leurs enfants. Ces mamans prêtes à sacrifier leur vie pour eux. Frères et sœurs, j'ai envie de nous poser quelques questions. Où en sommes-nous dans notre communauté ? Où en sommes-nous ? Quels sont les sentiments qui nous animent les uns envers les autres ? Est-ce que je pense la plupart du temps à moi ou à l'autre ? Est-ce que parfois le moindre petit obstacle, la moindre petite contrariété arrête mon élan d'amour envers l'autre ? Je vous rassure, et je me pose ces questions aussi. Ce qui est le plus dur quand vous préparez ce genre de message, c'est vous-même. C'est vous-même. Qu'est-ce qui bloque ma communion avec mon frère, avec ma sœur ? Que puis-je sacrifier dans le rythme effréné de ma vie pour passer plus de temps avec mon frère ou avec ma sœur et prendre soin de lui ou d'elle? Qu'est-ce que je peux sacrifier, mettre de côté en disant ça, tant pis, ma priorité, elle est pour mes frères et sœurs. Paul avait le même cœur que ses mamans pour l'Église. Il est passé par les mêmes choses difficiles. Dans 2 Corinthiens 11, on a ce texte magnifique où il dit « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. » Stop, c'est bon, Paul. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Je sais pas, mais... Moi, je ne sais pas quoi dire après Paul. Il est juste incroyable, ce gars. Lequel d'entre nous, on n'aurait pas abandonné avant ? Et il n'a pas mis toute la liste, j'en suis sûr. Et son souci, c'est quoi ? C'est l'Église. Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, le cœur de ses mamans pour notre Église, Seigneur. Donne-nous le cœur de Paul, Seigneur, pour notre communauté, ici. S'il te plaît. Voilà l'œuvre extraordinaire du salut de Dieu en Jésus-Christ. Et quand on lit ça, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, on peut se dire, bon, c'était quelqu'un de bien, c'est sûr, mais non. Quand on connaît l'histoire, ce n'était pas quelqu'un de bien, au fait. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le salut en Jésus-Christ. C'est que Paul est passé de l'état de religieux avec un cœur dur qui a prouvé l'emprisonnement et le meurtre d'innocents. C'est là-dedans que Jésus est allé le chercher. Et il est passé à celui où son cœur a été rempli d'amour. L'amour d'une maman envers ses enfants, capable de tout donner, même sa vie, s'il le fallait. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, Paul. Il a donné sa vie pour l'Église. On peut mettre la slide d'après. Excusez-moi, j'avance aussi parce que je vois que le temps galope. Ça mériterait qu'on s'arrête peut-être à certains moments, mais je laisse le Saint-Esprit poser ça dans nos cœurs et le faire grandir et digérer. Développer l'esprit de sacrifice, c'est être prêt. Alors j'ai bien mis dans ma relation avec l'autre, d'accord ? Bien sûr qu'il y a des combats dans la vie, bien sûr qu'il y a des batailles spirituelles, mais là je parle dans le cadre de ma relation avec l'autre. C'est être prêt, je crois, à renoncer plus qu'à se battre. Combien de fois on a plutôt envie de se battre ? À donner plus qu'à recevoir. J'ai besoin ! Oui, mais donne. Mais donne. Parce que ton Dieu a donné. À se mettre en danger parfois, plutôt que de rechercher la sécurité permanente. Cette Iréna, elle n'avait rien à faire du danger. Elle s'en fichait de sa propre sécurité. À peiner dans le travail plutôt que de courir après le confort. Et oui, ça coûte. Ça coûte. Ça donne de la peine parfois. On travaille peut-être plus, mais c'est bien. J'allais dire, c'est pas grave. Non, au contraire, c'est bien. La Bible dit que c'est très bien. Et parfois même, c'est être prêt à souffrir. J'avais envie de nous rappeler ce matin que même si je crois profondément au ministère de guérison et de consolation confié à l'Église par Jésus, d'ailleurs, On a un super message pour ceux qui n'étaient pas là sur la consolation de dimanche dernier. Vous pouvez aller l'écouter sur le site. Même si ça, c'est une vérité, que Dieu guérit et Dieu console, je ne crois pas à une vision du christianisme qui ôte toute souffrance, toute douleur, et donc qui ôterait tout sacrifice sur terre maintenant. Un jour, oui. Un jour, toute douleur, toute peine disparaîtra. Mais aujourd'hui, non, pas encore. Pas encore. On va prendre 1 Pierre 4. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Au contraire, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Waouh! Réjouissez-vous de souffrir avec Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ainsi que ceux qui souffrent, souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au Créateur fidèle, en faisant quoi ? En faisant ce qui est bien. Contrairement aux héros du monde, Superman, Wonder Woman, etc., qui eux sauvent en défonçant les méchants, c'est l'image du héros que l'on a. Notre héros, lui, Jésus, sauve en donnant sa vie, en mourant sur la croix. Et il faut avouer, c'est dérangeant. C'est dérangeant, on peut dire oui, c'est chouette, mais c'est profondément dérangeant. Nous nous identifions à la personne que nous vénérons ou que nous considérons comme notre héros. Est-ce que vous avez réalisé ça ? Et la chair en nous, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut un super-héros. Elle veut un super-héros. Un guerrier qui défonce tout. Pas quelqu'un qui est en apparence faible, qui se sacrifie et qui peut mourir. On connaît tous ces récits dans la Bible, enfin peut-être pas tous, où il y a, par exemple, à Gethsémané, quand Jésus va se faire arrêter, il y a un des disciples, il prend le couteau et il va couper l'oreille à un garde. C'était probablement Pierre. Il y a aussi ce passage où Jacques et Jean, quand ils devaient aller dire dans un village chez les Samaritains que Jésus allait venir, et les gens ont dit non, et la réponse a été « Seigneur Jésus, permets que le feu du ciel tombe sur eux !» Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit, ben oui, bien sûr. Il les réprimande très sévèrement et il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ouf. En tant qu'hommes et femmes, nous aspirons à être forts, à vaincre par la force et la puissance, à nous élever au-dessus de tout ce qui se dresse devant nous pour nous dominer. On n'aime pas ça. Mais en tant que chrétien, je suis désolé, mais nous avons un problème. Nous avons un problème face à cette attitude de la chair. C'est que notre héros, notre modèle, notre Dieu s'est abaissé. Il s'est humilié. Il s'est offert en sacrifice. Dans Philippiens 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous servons un Dieu qui offre sa vie pour nous. Dieu aurait pu éradiquer le mal. Vous êtes déjà posé cette question ? Il aurait pu, dès le début. Il suffisait de tuer Adam et Ève, c'était fini. Il aurait pu encore après Noé. Pourquoi il a sauvé cette famille ? Il est laissé avec les autres et c'était fini. C'était fini. L'histoire était close. Mais ce n'était pas son plan. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, dans Luc 9, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, mais des hommes, mais pour les sauver. C'est ça la volonté de Dieu. C'est de sauver l'humanité. Jésus est venu appeler et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Et c'est pour ça que Pierre va nous encourager en disant « Mais usez de patience, le Seigneur ne tarde pas. Arrêtez de vouloir que la souffrance ou la part du sacrifice s'arrête complètement. Parce que quand ça s'arrête, tout s'arrête. C'est fini. Jésus revient. Et le salut est fermé. Et le salut est fermé. Une fois, Ethan m'a posé cette question. Mais pourquoi Jésus, il n'est pas encore revenu ? Je lui dis, ben, imagine, il serait revenu en juillet 2008. Ben, Ethan, tu ne serais pas né. Et la Bible nous dit qu'il patiente le temps que tout le monde rentre dans la bergerie, le temps que le nombre soit complet. Jésus est venu appeler et sauver ceux qui sont perdus. Comment il l'a fait ? Ça nous l'a été dit ce matin dans la présentation de l'offrande. En souffrant le calvaire de la croix, en souffrant les insultes, les calomnies, les coups, la solitude, le dénuement, la soif, la pression spirituelle, et puis jusqu'à la mort. Je prendrai juste une dernière image avant de conclure. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Notre humanité en tant que chrétien voudrait voir Jésus en tant que lion. C'est vrai ou pas ? Le lion qui rugit et détruit le mal. Tu peux mettre la... Je crois qu'il y a une... D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on trouve ce texte où il dit, où les martyrs crient sous le trône de Jésus, et ils crient « Jusqu'à quand, maître, jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance ?» Et ça, c'est un peu notre cri parfois. Bon, il y en a marre, ça suffit. C'est dur. Et qu'est-ce que Dieu répond ? Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le nombre soit complet. Donc l'humanité veut le lion qui rugit. Mais le lion, lui, il est venu sur la terre comme un agneau. Et un agneau qui a été immolé, qui a été sacrifié. Et c'est lui, c'est l'agneau, qui ouvre le livre de vie. C'est lui qui rachète l'humanité par son sang. C'est lui qui donne sa vie pour ses amis. On trouve ça dans l'Apocalypse 5. Dans tout le livre de l'Apocalypse, vous savez combien de fois l'agneau est cité, Jésus en tant qu'agneau ? 27 fois. 27 fois. Et dans le Nouveau Testament, plus de 31 fois. Question à 50 euros. Combien de fois est cité le lion ? Jésus en tant que lion. Une fois, dans le livre de l'Apocalypse. Une fois, il est cité en tant que lion. Le lion de la tribu de Juda. Je n'essaie absolument pas ce matin de réduire la seigneurie de Jésus. Absolument pas. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est assis sur le trône à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne suis pas en train de réduire la seigneurie de Jésus. Ce que j'essaie de montrer, c'est que cette seigneurie, cette puissance de Jésus se manifeste non au travers de la guerre et de la domination, mais au travers du sacrifice et du don de soi. En conclusion, je dirais deux choses. Prenons tous exemple sur Jésus, si vous êtes d'accord. Car vouloir se sacrifier pour l'autre, vouloir donner sa vie pour l'autre, pour moi, demande bien plus de courage et de force que de chercher à rabaisser ou à écraser l'autre. Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand. Marc 9, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Matthieu 16, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Peut-être ce matin, il y a des personnes au milieu de nous qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Si tu veux venir auprès de Jésus, renonce à toi-même et repends-toi. Laisse le Saint-Esprit te changer radicalement à l'intérieur de toi. Devenir chrétienne, ce n'est pas adhérer à un club. Alors oui, les gens que tu as vus ce matin, ils ont l'air sympas. Et ils sont sympas. Je vous aime. Mais ce n'est pas ça qui t'amènera auprès de Jésus. Si tu viens me voir, parce que je suis pasteur, pour être sauvé, je suis désolé, je ne peux pas te sauver. Un seul est capable de le faire. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est à lui que tu dois aller ce matin. C'est pas à moi, c'est pas vers la personne qui t'a amené. Mais c'est à lui que tu dois aller ce matin. Et alors il te sauvera. Il te sauvera. Donne-lui ta vie et il te la redonnera. J'aimerais qu'ensemble, nous portions cette valeur du don de soi très haut dans l'Église, dans notre cœur. Que nous regardions à cela, non comme une tristesse, ce n'est pas une tristesse, mais comme un sujet de grande joie. Que nous nous encouragions à persévérer dedans, car je le crois, c'est un trésor de grande valeur dans le royaume de notre Père. Je vais juste relire le verset de 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je vais inviter à la prière. Seigneur. Saint-Esprit, on veut te redire qu'on a tellement besoin de toi, Seigneur. pour vivre la vie que Jésus a vécue, Seigneur. Pardon pour mon orgueil, Seigneur. Pardon pour la recherche à tout prix absolu de mon propre confort, Seigneur. Pardon pour tous les sentiments mauvais que j'ai pu laisser grandir en moi, Seigneur, envers mon frère ou envers ma sœur. Seigneur, je veux apprendre encore plus à donner ma vie pour toi et pour ceux que tu as placés à côté de moi, Seigneur. Je ne veux pas me considérer comme au-dessus, comme plus important, mais au contraire, je veux considérer leur vie, Seigneur, comme au-dessus de la mienne. Seigneur, tu es notre exemple, et c'est toi que nous adorons, ce Dieu tout-puissant qui est descendu et qui s'est laissé humilier sur la croix. Mais ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de ta force, Seigneur. Toi seul pouvais faire ça. Toi seul pouvais le faire, Seigneur. Seigneur, apprends-nous encore plus à nous donner les uns aux autres, à passer du temps les uns avec les autres. Si je ne suis pas dans un groupe, Seigneur, ben, je te demande pardon, Seigneur. Je veux comprendre ce matin que j'ai besoin d'être avec mes frères et avec mes sœurs pour vivre cette dimension ô combien précieuse du don de soi pour l'autre. Apprends-moi à donner, Seigneur. Apprends-moi à renoncer, Seigneur. Apprends-moi à sortir de ma sécurité, de mon confort. Apprends-moi à ne pas regarder à la dépense, mais à regarder à ton amour. Amen. Amen.